Nils, bonjour.
Bonjour Marianne, ça va?
Très bien, Nils Oliveto, nouveau chroniqueur ici à l'émission C'est bon pour la santé. Nils, je le disais tout à l'heure, vous êtes consultant en performance humaine. Et on se demande un petit peu c'est quoi. On est un petit peu curieuse. Également diplômée de maîtrise en sciences en physiologie de l'exercice à l'Université d'Oklahoma aux États-Unis, éducateur physique. Bref, vous avez tout un CV dans votre poche. Rapidement, qu'est-ce que ça fait sans un consultant en performance humaine?
Bien, moi, je suis spécialisé en périodisation, c'est-à-dire tout ce qui est méthodologie de l'entraînement. Je l'ai surtout fait aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Donc, je suis. On m'a consulté dans le passé sur différents aspects de l'entraînement au niveau de l'organisation, de la méthodologie, de l'entraînement de résistance. Et il y a même des éléments de psychologie sportive qui rentrent là-dedans. Donc, voilà. J'ai eu des athlètes de haut niveau qui m'ont approché, qui étaient déjà très bons, qui m'ont dit bon, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà.
Vous êtes ici pour nous parler aujourd'hui de comment. Bon, on peut s'entraîner, être actif, faire du sport lorsque l'on vit avec une déficience visuelle. Et en premier lieu, on se dit, ben, si on vit avec une déficience visuelle, ben, on peut se mouvoir quand même, mais il y a quand même beaucoup de défis lorsque l'on vit avec un handicap visuel, lorsque vient le temps de faire de l'activité physique.
Il y a énormément de défis, mais l'enthousiasme de quelqu'un qui veut commencer, débuter l'activité reste le même. Et c'est certain, bon, par exemple, cet été, les Jeux paralympiques auront lieu en septembre à Rio. Et on observe qu'à chaque année olympique, il y a un niveau d'engouement dans le désir de pratiquer un sport qui monte d'un cran pour tout le monde, chez monsieur et madame tout le monde. Et ce niveau de motivation est également très présent chez les sportifs amateurs avec un handicap physique.
Oui.
Mm-hmm. Alors, pour les besoins, alors, je suis ici pour ça. Je vais cibler les principes d'entraînement d'un sportif amateur avec une déficience visuelle.
Mm-hmm.
Mais il faut préciser, d'abord et avant tout, que les principes de l'entraînement physique des personnes déficientes visuelles sont très similaires à ceux qui président à l'entraînement des personnes sans handicap, avec quelques facteurs. Et c'est là qu'on vient démêler tout ça.
Mm-hmm.
C'est très semblable, mais il y a des facteurs qu'il faut prendre en considération.
OK. Mettons, qu'est-ce qu'il y aurait de semblable si on met la table?
Bon, un athlète, c'est un athlète. Le corps humain est le corps humain. En termes d'exécution, les fonctions physiologiques restent les mêmes. Et ce sont, lorsqu'il y a un handicap visuel, c'est un obstacle en plus qu'il faut prendre en considération et qu'il y a un ajustement à faire.
Oui.
Mais au départ, c'est très semblable.
Les ajustements, bon, j'imagine, équilibre?
Bien, on va commencer tout de suite avec le manque de repères visibles.
Ah, OK.
Alors, on va y aller là-dessus. Il y a un lien avec l'équilibre et on va y arriver. Mais il faut savoir que l'apprentissage des habiletés physiques est particulièrement difficile en l'absence de modèles et de repères visibles chez les personnes non-voyantes, pour des raisons évidentes. Et certaines recherches scientifiques avec des enfants ont démontré que pour maîtriser une nouvelle habileté, un enfant qui a une déficience visuelle doit faire jusqu'à 8 fois plus d'essais qu'un autre enfant.
Ah oui, demande beaucoup de persévérance.
Voilà, donc les débuts sont difficiles, ça prend beaucoup de pratique. Par contre, et là c'est vraiment impératif de le mentionner, que le niveau de maîtrise technique acquis suite à un très grand nombre de répétitions par un sportif avec une déficience visuelle peut être égal ou même éventuellement devenir supérieur à un sportif possédant une vision parfaite. Et beaucoup d'exemples là-dessus au niveau, si vous regardez les athlètes de niveau paralympique,
oui.
Ce sont les meilleurs exemples à prendre là-dessus et il y en a plusieurs.
Oui. Donc, l'absence de repères visuels, ça, c'est un obstacle. L'équilibre également.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait d'autres obstacles?
Il y a l'aspect musculaire qu'il faut prendre en considération. Alors, un sportif non-voyant va accumuler une tension musculaire résiduelle plus élevée en raison de l'absence de rétroaction visuelle. Alors, quand on parle de rétroaction visuelle, on parle tout simplement de l'utilisation de points de repère visibles, chose qui ne peut pas être faite, encore une fois, pour des raisons évidentes. Le manque de repères visibles entraîne une dépense d'énergie qui est plus élevée pendant un entraînement. Donc, le coût métabolique de l'activité physique est souvent plus élevé chez les sportifs avec une déficience visuelle que pour les sportifs voyants.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, je voulais faire une petite expérience ici en studio.
Il nous reste 2 minutes, on a le temps.
On a le temps. Alors, une petite expérience. Vous êtes présentement assise. Ça va démontrer un peu mon point. Vous allez tout simplement, en deux temps, vous lever et être en équilibre. Alors, je vais observer, je vais commenter ce que je vois. Vous êtes levé.
Donc, je lève une jambe.
Vous levez une jambe. Et là, vous êtes présentement en équilibre. Et là, il y a une recherche d'équilibre qui se fait. Ça a pris une seconde et demie à faire et vous êtes en train de maintenir cet équilibre-là sur une jambe. Vous ne bougez pas. Donc, c'est très bien. Vous allez vous rasseoir. Et on va refaire exactement le même mouvement, qui est très simple. Vous êtes d'accord? Mais cette fois-ci, vous allez fermer les yeux
à
partir de votre chaise.
Reste une minute et demie, on y va.
Allez, on y va. Vous allez vous lever. Les yeux fermés. Marianne a les yeux fermés présentement. Elle s'est levée avec difficulté. Elle cherche son équilibre. Elle tremble beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'équilibre, oh, on est presque tombé et elle va se rasseoir.
Mon prof de yoga ne serait pas fier de moi.
Mais ça démontre... Alors, voilà l'exemple que je voulais démontrer. Ça a démontré un effort de proprioception qui est beaucoup plus élevé à l'absence de cette rétroaction visuelle.
Tout de suite, c'était très perceptible pour avoir vécu l'expérience, Nils. Il reste une minute. Je veux juste qu'on se laisse quand même sur un message positif. Pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle, il faut quand même tenter de bouger, d'être actif.
Absolument, absolument. Soyez actif, ça ne devrait pas vous empêcher. Ayez, moi, que je donne comme conseil, d'avoir un partenaire d'entraînement.
Ah, ben oui, très bonne idée.
Idéalement, un sportif voyant qui pratique le même sport que vous, qui peut vous aider avec la motivation, l'aide logistique, et qui peut vous observer au niveau technique également lors de la pratique sportive.
Pour éviter les blessures.
Exactement.
Tout à fait, parce que bouger, ben, on le sait, c'est bon pour la santé. Nils Oliveto, première chronique, merci beaucoup.
Ben, merci
également
à vous.
Consultant en performance humaine et plein d'autres belles choses. Ça a été un plaisir, merci.
Merci.